résistance et mémoire. Les jeunes Gersois à la recherche de leurs histoires.
Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode de l'émission sur l'opération de minuit. Pour comprendre un peu mieux ce que signifie résister pendant la guerre, lors de la cérémonie du 14 décembre dernier à Pont-Saint-Père, nous avons eu la chance de rencontrer des témoins directs ou indirects de cette période sombre.
Laura, Maya et Justine, vous avez rencontré une personne qui a pu vous raconter cela ?
Oui, nous avons interrogé Michael Gabrion, il a 43 ans. Son grand-père, Pierre Gabrion, avait 17 ans quand il a décidé de quitter les Vosges pour s'engager dans la résistance dans le Gers.
Michael Gabrion, lui, est venu des Yvelines en région parisienne pour assister à la commémoration des 80 ans de l'opération de minuit.
Il a voulu partager avec nous l'histoire de son grand-père qui, par miracle, est revenu vivant des camps d'extermination en Allemagne.
Est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé pendant et après l'opération de minuit ?
Alors je ne sais pas grand-chose, il ne m'a jamais raconté. Je me suis documenté, j'ai lu quelques informations, un article qui date d'il y a 30 ans. Pour les 50 ans de Pont-Saint-Père, il y a eu un petit article dans la Dépêche, je crois. Ce qui s'est passé à 5 heures du matin, ils ont été réveillés brutalement, sortis du lit, complètement par surprise, donc il n'y avait rien à faire. Ils racontent dans une interview qu'ils n'avaient même pas d'armes à feu, rien, sauf enfin, peut-être un pistolet, quelque chose, mais ce n'est pas ça qui les a aidés. Ils ont été mis debout les uns à côté des autres. Et la Gestapo a fait croire qu'ils allaient être fusillés. Ils ne l'ont pas été. Et ensuite, je sais, à travers des bouquins aussi que j'ai lus, ils sont allés à Auch et très rapidement, ils ont été déportés à la prison Saint-Michel de Toulouse pendant un mois où ils ont été torturés, tous. Personne n'a parlé. Puis ils ont été transférés à Compiègne, une espèce d'antichambre des départs pour la déportation, en fait. Il y en a deux qui sont évadés, je sais. Et mon grand-père, avec d'autres, ont été déportés au camp de Buchenwald, qui est un des camps de concentration les plus importants, où il est resté un mois, et ensuite il a été déporté à Dora. Donc il est forcé à travailler. C'était un camp d'extermination par le travail, et puis avec aucune espèce de précaution pour les travailleurs, parce qu'ils dormaient dans le tunnel, comme on peut imaginer, un tunnel qui creusait en même temps. Donc il y avait des tonnes de poussière, il y avait des charges extrêmement lourdes à pousser. Ils étaient épuisés, il y avait des maladies très importantes qui circulaient. Enfin, c'était une abomination, quoi. C'était une abomination. Et ces deux cousins, malheureusement, qui étaient ici, qui ont été raflés ici à Pont-Saint-Père, sont morts très rapidement. Et mon grand-père a fait un peu différentes tâches là-bas, dans le tunnel, des travaux de terrassement en extérieur, avec simplement une chemise ouverte par moins 20 l'hiver en Allemagne, comme on peut l'imaginer. Il était grand, c'était un athlète. Il mesurait 1m83. En quittant les camps, il pesait 38 kilos.
Ikram et Lise, vous avez rencontré vous aussi une autre famille, touchée par cette tragédie.
Oui, nous avons écouté l'histoire racontée par le neveu et le petit-neveu de Joseph Jalvet. Ce dernier faisait aussi partie du corps franc-pommiers. Comme le grand-père de Michael Gabrion, il a donc été arrêté, puis déporté lors de l'opération de minuit. Malheureusement, il n'a pas survécu. Michel Weber et son père Jean nous racontent le terrible périple de leur aïeul jusqu'en Allemagne.
Mon grand-oncle est parti le 27 avril 1944. Et donc, ils ont fait un périple absolument infernal dans des wagons à bestiaux à 100 hommes par wagon, où ils sont allés jusqu'à Auschwitz, où ils ont passé 15 jours à Auschwitz. Ensuite, d'Auschwitz, ils sont repartis à Buchenwald. Donc, si vous visualisez la carte, ils ont retraversé une partie de la Pologne et quasiment toute l'Allemagne. Et ensuite, ils sont repartis à Flossenbürg. Et de Flossenbürg, il a rejoint un commando. C'était une annexe du camp de concentration, où là, il creusait à flanc de colline une usine souterraine pour BMW. Il est mort de, enfin, comme on disait dans la famille, de privation et de mauvais traitement. Il est mort d'épuisement en décembre 1944, un peu plus de 6 mois après son arrivée dans le camp. Il y avait un taux de mortalité à peu près de 80%.
Le camp de Flossenbürg, il est quand même un petit peu resté sorte de musée, parce que les principaux bâtiments du camp sont conservés, notamment le beau bâtiment en pierre construit par et pour les SS, et puis les différents passages à l'entrée et surtout le four crématoire. Le four crématoire qui est en contrebas de la surface du camp. Et quand il y avait un mort, on le précipitait dans une espèce de goulotte qui descendait directement jusqu'au four crématoire. Et alors là, autour du four crématoire, ce qui nous a absolument horrifiés, c'est que quand on entre dans l'air autour du four crématoire, on marche sur un tapis de cendres humaines de 10 cm d'épaisseur. Et au milieu, il y a une pyramide de base carrée de 4 sur 4, quelque chose comme ça.
Ouais, même plus grande, je crois, 10 sur 10. Ah, oui.
Et haute de 2 mètres ou un peu plus, rien qu'avec des cendres humaines.
Qui ont été retrouvées sur place.
33 000 personnes sont mortes à ce camp de Flossenbürg, de toutes les nations et de toutes les religions. Et c'est absolument... ça vous prend aux tripes, quoi. Quand vous rentrez là, vous vous dites... Il y a 30 000 personnes qui sont passées dans ce four crématoire et leurs cendres sont là, sous nos pieds.
On l'entend dans cet extrait, retrouver les traces de cet oncle disparu n'a pas été simple. Michel, le petit-neveu, nous a également décrit son long travail d'enquête.
Moi qui ai 61 ans, donc on parlait pudiquement de Joseph en disant qu'il était mort de privation et mauvais traitement, mais dans la famille, on n'en parlait plus. Mmh. Voilà. Et c'est moi qui, en arrivant dans le Gers, en fait, je suis retombé tout à fait par hasard sur un petit livre écrit par Guy Labédan sur les lieux de mémoire de la Deuxième Guerre mondiale dans le Gers. Et en le feuilletant, je suis tombé sur la plaque de Pont-Saint-Père avec le nom de mon grand-oncle que j'ai réussi à lire sur la photo. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches. Les Allemands faisaient administrativement très bien les choses. Et je retrouve tous les classements, le fichage, les bons de transport, avec qui il était, les dates, d'où ils sont partis, où ils sont allés, etc. Et ces documents-là, je les ai récupérés. Et c'est vrai qu'ensuite, ça nous a permis d'organiser ce voyage il y a une dizaine d'années pour découvrir une ville qui a complètement gommé les traces du camp qui existait. À l'endroit où ils étaient détenus, il n'y avait plus rien. On a retrouvé quand même le fameux chantier de l'usine souterraine. Et là, parce qu'il y avait une petite association du village qui organisait une cérémonie à l'occasion de la libération du camp. Et donc, on a pu voir. Et puis, on est allé aussi à Flossenbürg, où là, ils ont sauvé, entre guillemets, des vestiges du camp, la population. Et ça a été pas sans mal, parce qu'on a bien saboté le travail, etc., des personnes qui voulaient perpétuer la mémoire. Et donc, il reste une partie du camp qu'on peut encore visiter et qui a été réhabilitée, etc. Et voilà.
En plus de l'enquête, c'est parfois un travail difficile de se confronter au silence des proches. Dans la famille de Claire Becker, son père résistant s'est tu pendant très longtemps.
Mon père était venu en cours expliquer ça à mes élèves de 3e en français, en cours de français. Et c'est là que j'ai appris tous ces détails, parce qu'il n'en parlait pas... Il n'en parlait pas spontanément. Moi, j'ai appris à 27 ans seulement qu'il avait fait de la résistance parce qu'il avait un copain qui était à la maison et ils ont évoqué des souvenirs. Donc, c'est un petit peu par hasard que j'ai appris ça. Mais ensuite, on lui a demandé pourquoi il ne nous l'avait pas dit. Et c'est simplement parce qu'il considérait qu'il avait fait son devoir, tout simplement. Que c'était quelque chose pour lui de normal. Il ne se prenait pas pour un héros du tout. Et donc, pour lui, c'était dans la normalité de l'histoire avec un grand H, de son histoire personnelle. Et voilà, et puis comme il n'avait que 18 ans, il n'a pas eu de haute fonction évidemment dans la résistance, il n'a pas fait d'acte plus héroïque que celui des autres. Voilà, donc après, il nous en a parlé quand on a appris, on lui a quand même posé quelques questions. Mais je pense qu'il n'y avait pas tellement de blocage de la parole, c'est simplement que, voilà, il estimait qu'il y en avait tellement d'autres qui avaient fait tellement plus que lui. Que, bon, il n'y avait pas de quoi en faire étalage, tout simplement.
Nous aussi, avec Maya, nous avons remarqué qu'en interrogeant Michael Gabrion, le travail de mémoire n'était pas si simple.
Même s'il est revenu vivant des camps, son grand-père a très peu parlé de la guerre et de ses traumatismes.
Comment avez-vous retracé son histoire ?
Je l'ai retracé une fois qu'il est mort. Un effet boomerang, quoi. Le sentiment que je suis passé à côté de quelque chose et de devoir le rattraper. Et donc j'ai enquêté, j'ai fait un travail de journaliste. Ça part de la page blanche de Google, et puis c'est parti, et puis on cherche des associations, des bouquins, des archives, même des archives allemandes, via le ministère des armées, j'ai retrouvé son dossier militaire, et puis on trouve des noms à droite, à gauche. Voilà, donc c'est un travail de fourmi. C'est un travail de fourmi. Ça m'a pris 2-3 ans avant de recoller pas mal de... recroiser pas mal d'infos, d'être mis en lien avec les gens d'ici aussi. Je connais personne ici, hein. Je suis vraiment venu parce que j'ai rencontré des gens à force d'enquêter aussi. Voilà, donc ça s'est fait petit à petit, quoi. Ouais, ça m'a pris beaucoup de temps, ouais. Je savais qu'il était passé par Dora, je savais qu'il y avait y a des bouquins, d'ailleurs, dans lesquels il était cité, mais c'est vrai qu'il y avait une telle mise à distance avec ça que je ne ressentais pas le besoin impérieux, c'est terrible de dire ça, mais de lire ces documents-là, parce que les choses filent, et puis voilà, c'est compliqué, enfin, c'est pas compliqué, mais quand on a 18 ans, c'est pas toujours évident de faire stop, on est sur sa vie, et de dire, bah, je vais lire un bouquin de 400 pages sur l'histoire du camp de Dora. Voilà, moi, j'ai pas cette énergie, j'ai pas cette curiosité. C'était comme ça, mais parce qu'aussi, à la maison, il n'y avait pas ce besoin d'urgence de connaître les choses, quoi. Et puis lui, finalement, c'était lui le gardien du temple. C'était lui qui avait à dire quelque chose, c'était à lui de le faire, en fait. Et s'il ne le faisait pas, c'est qu'il y a une bonne raison, quoi. Donc, bon, voilà. Le temps est passé, et puis j'essaie de le rattraper un peu tardivement.
Moi, j'aimerais savoir si avant de faire toutes ces recherches, vous vous doutiez qu'il avait vécu tout ça.
En fait, je le savais, mais sans savoir ce qui s'était passé. Je le savais par ses silences. Je le savais parce que c'était quelqu'un de très peu loquace et en très peu de mots. Il y a autre chose que les mots qui passaient. Donc j'avais conscience qu'il y avait quelque chose de grave aussi. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas fait des recherches. C'était trop intimidant, quoi. On a peur de se confronter à quelque chose d'assez terrifiant, quoi. C'est sûr. Et c'est vrai qu'il y a des récits qui sont très durs à lire, très très durs à lire. On ne soupçonne pas, en fait. C'est pour ça que je viens. Enfin, encore une fois, c'est de rendre hommage à des gens qui sont vraiment des... On ne se rend pas compte, mais qui sont des héros absolus, quoi. À 17 ans, il a voulu prendre le maquis. Il s'est engagé pour défendre... les opprimés, pour combattre la barbarie nazie, à cet âge-là, avoir cette maturité-là, le comprendre, prendre les armes, c'est quelque chose d'assez fou quand on y pense. Il a survécu, mais à quel prix, voilà.
Justement, pour cette émission, nous avons nous aussi enquêté et cherché des informations. Et il nous semble que l'histoire de l'opération de minuit s'écrit encore aujourd'hui.
Jean Mocassin, votre père était aussi résistant. Quand vous étiez plus jeune, était-ce difficile pour lui d'en parler ?
Oui, je peux affirmer donc qu'il était difficile pour lui d'en parler, surtout donc au sein de la famille. Peut-être qu'il ne bénéficiait pas non plus de l'écoute qu'il méritait à ce moment-là. Je n'étais pas du tout personnellement impliqué dans ce genre d'aventure qui ne me concernait pas.
À quel âge avez-vous appris qu'il était résistant ?
Lorsque j'avais entre 40 et 50 ans, on va dire, j'ai commencé donc non seulement à le savoir, mais en plus à m'y intéresser un tout petit peu. Et progressivement, au fur et à mesure que sa parole s'est déliée, mon écoute elle-même s'est améliorée.
C'était très 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 tard.
Mais je n'étais pas très 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 prêt.
Et pourquoi ?
Parce que j'étais plutôt antimilitariste quand j'étais jeune. J'avais des convictions très pacifistes pour une humanité et un univers en paix. Et tout ce qui concernait la chose militaire ne me passionnait, mais alors vraiment pas du tout.
Et maintenant, comment vous mobilisez-vous dans le Gers pour qu'on perpétue son récit et l'héritage des résistants gersois ?
C'est que donc j'ai pris progressivement conscience d'une appartenance à un sillon familial et au fur et à mesure que j'ai vu que les forces de mon père diminuaient un tout petit peu, qu'il n'avait plus tout à fait l'énergie nécessaire pour perpétuer le souvenir, il m'est venu donc naturellement le désir, voire le devoir, de prendre sa succession.
C'est-à-dire comment vous prenez sa succession ?
Eh bien, c'est que le corps franc en Pommiers donc a compris environ 10 000 jeunes gens durant la période de la guerre. Et à la fin de la guerre, le chef André Pommiers a décidé que cette aventure ne devait pas s'arrêter là et il a fondé ce qu'on appelle l'Association des anciens combattants du corps franc-pommiès. C'est une association qui a compté à son tour des milliers de personnes, dont mon père était le secrétaire national. Et évidemment, donc, lorsque mon père a pris la décision d'arrêter donc, ses responsabilités, j'ai pris la suite.
Lors de l'événement que vous avez organisé en décembre dernier, nos camarades Timéo et Sacha ont rencontré Laurent Carrier, le préfet du Gers. Il nous explique aussi l'importance des commémorations encore aujourd'hui.
Je suis Laurent Carrier, je suis le préfet du Gers, et donc je suis amené, dans le cadre de mes fonctions, à me rendre très souvent sur des cérémonies de mémoire, de commémoration, comme on l'a fait aujourd'hui. Alors il y en a qui sont très connues, comme le 11 novembre, ou le 8 mai, ou, voilà, mais il y en a d'autres qui sont locales, comme celles qu'on a fait ce matin. Des cérémonies comme aujourd'hui, et c'est important d'y être en personne. Voilà, c'est pour ça que je voulais absolument être là aujourd'hui. Alors il y a énormément de commémorations. Sur la Seconde Guerre mondiale, on a plusieurs dizaines de commémorations. Certaines très importantes, comme celle du maquis de Meillan, hein, qui a lieu au mois de juillet, dont vous avez dû entendre parler. Et donc l'important, c'est justement de faire des cérémonies comme aujourd'hui, d'associer des jeunes. C'est très bien ce que vous faites aujourd'hui, je vous en félicite, parce qu'il ne faut pas que de génération en génération, on perde la mémoire de ce qui s'est passé, de ces événements. Et cette année, en plus, on va fêter les 80 ans de la libération. Je pense qu'il faut qu'on donne une dimension particulière à ces événements. Donc on va faire toute une série d'actions, d'animations, d'actions pédagogiques, notamment en impliquant les jeunes. Voilà, ça c'est important, et je sais que le directeur de l'Office national des anciens combattants travaille là-dessus pour qu'on ait un très beau programme de commémoration du 80e anniversaire de la libération cette année, en 2024.
Jean Moncassin, monsieur le préfet parle du travail de mémoire auprès de nous, les jeunes. Est-ce que vous craignez que les actes de résistance dans le Gers tombent dans l'oubli ?
Non. Franchement, non. D'une part, au vu de mon itinéraire personnel, je comprends que ce qu'on a pu penser ou croire à une époque est susceptible d'évoluer. Et d'autre part, votre présence et votre action ici me permet donc de croire en l'avenir. Non seulement le vôtre, mais celui de toute l'organisation qui s'occupe des anciens combattants, à savoir donc l'Office national des anciens combattants victimes de guerre qui œuvre pour le devoir de mémoire.
Madame Leroy, nous avons l'impression que même au-delà des jeunes, l'opération de minuit est une page d'histoire encore peu reconnue. Vous, qui êtes l'une des rares historiennes à avoir travaillé sur cette période sombre, comment l'expliquez-vous ?
Alors, très honnêtement, j'ai un peu de mal à l'expliquer. Enfin, expliquer surtout cette absence dans les livres d'histoire des historiens de la Haute-Garonne ou de la région, qui passent souvent sous silence l'ensemble de l'opération de minuit. Je pense aussi que les dénonciations qui sont intervenues, qui ont provoqué les arrestations, ont suscité le silence. On parlait du silence des témoins, mais je pense aussi que ce genre d'action a suscité beaucoup de silence et de méfiance. Et aujourd'hui, il y a encore un gros travail de recherche pour retrouver l'ensemble des personnes qui ont été arrêtées pendant cette opération de minuit. Le travail n'est pas terminé.
D'ailleurs, lors d'une sortie à Toulouse en décembre dernier, à vos côtés, Elérica Leroy, nous avons vu le siège de la Gestapo. Mais vous nous avez expliqué que les plaques commémoratives ne disent pas tout.
En fait, on est devant la villa, alors que les habitants du quartier appellent le petit château. La villa qui a été louée par les services du ZIPOSD, Sicherheitspolizei, qu'on appelle Gestapo, plus couramment. C'est ici, et ensuite Saint-Michel, où seront amenés et torturés la majorité des résistants, mais des juifs également, arrêtés à Toulouse et dans la région. On va traverser, vous allez aller voir la plaque et vous chercherez bien l'endroit où est écrit « Ancien siège de la Gestapo ». C'est une mission. Là, vous voyez, devant, il n'y a aucune mention de ce qu'était cette ville-là. En fait, la souffrance des résistants, ici, c'est vraiment le lieu de souffrance de la résistance. Et c'est une maison, c'est une propriété privée aujourd'hui, divisée en appartements. Et donc, il reste juste cette plaque que les propriétaires auraient bien aimé voir déboulonner.
Que peut-on lire sur la plaque ?
Alors, la plaque qui se trouve devant ce qui était le siège de la Gestapo, donc le siège de la Gestapo régionale, on voit une plaque où il est écrit « Ici sont tombés ». 5 noms de résistants, en fait, qu'on a retrouvés, enterrés ou pas dans le jardin du siège de la Gestapo. On y lit 5 noms. Le premier, notamment Lucien Béret, qui fut le premier résistant torturé à mort en octobre 1943, qui appartenait au réseau Brutus. On y voit ensuite Léon Amar, dont le corps a été retrouvé dans le jardin. Et puis enfin, Lazare Friedman, Georges Eschiari et Stéphane Boltard, dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Mais ils ont été arrêtés par la Gestapo. Il n'est pas écrit ici se trouvaient les services de police de sûreté du Reich, comme il n'est pas écrit devant le siège de la milice, devant le siège régional de la milice à Toulouse, ici était le siège de la milice. C'est les silences de l'histoire encore une fois, mais les lieux sont toujours là et nous, au Musée de la Résistance, comme avec nos collègues de l'ONAC, on est là pour en parler.
Pourquoi les propriétaires ne souhaitent plus voir cette plaque devant chez eux ?
Parce que cette plaque leur rappelle le passé tragique de cette maison. C'est vrai que pour des raisons aussi de spéculation immobilière, on préfère avoir un passé neutre, hein, on vend mieux. Et ça les dérange qu'on rappelle, mais c'est comme ça aussi dans d'autres villes de France. Hein. Je pense à Vichy notamment, à Paris également, où ce passé douloureux n'est pas valorisant pour leur propriété.
Tout n'est pas encore su ou écrit sur l'opération de minuit. Qu'est-ce qui reste encore à découvrir ?
Pour l'opération de minuit, il nous reste quand même à découvrir le nom de certaines victimes, puisque moi, au cours de mes recherches, j'en ai identifié 80. On est loin des 110 qui sont sans arrêt cités. Il faudrait qu'on ait accès, en vérité, aux archives allemandes, qui sont absentes aujourd'hui, elles sont dites disparues. Pourtant, les Allemands faisaient tout en triple exemplaire minimum. Donc, un jour peut-être, comme c'est arrivé pour les archives de la commission d'enquête des crimes de guerre, qui sont reparues 60 ans plus tard, peut-être que les archives de la police allemande reparaîtront également et nous apporteront la connaissance sur les arrestations intervenues cette nuit-là.
Un grand merci à vous, Elérica Leroy et Jean Moncassin, de nous avoir guidés dans notre travail d'enquête sur l'opération de minuit.
Merci à vous pour tout le travail que vous avez mené, c'est remarquable.
Il est évident que je vous remercie aussi du plus profond de mon cœur et de ma mémoire, et je ne voudrais pas terminer sans évoquer le nom du premier résistant tué dans le Gers, à savoir Émile Beaufils, qui est mort en décembre 1943, avant l'opération de minuit, qui était déjà en cours de préparation.
C'est la fin de cette émission. Sachez que si vous souhaitez entendre l'intégralité des interviews des personnes que nous avons rencontrées, vous pouvez les retrouver plus en longueur sur le site internet du lycée Pardaillan. Merci à toutes ces personnes pour leurs poignants témoignages.
Nous tenons à remercier chaleureusement Sophia Marchezin et Sophie Perroiguet, les journalistes de l'association La Chance. Elles nous ont guidés dans ce projet d'émission et elles nous ont fait découvrir leur métier.
Un grand merci également à Alexandra Josse de Média Commun qui nous a appris l'art du dérochage. Elle assure aussi le montage de cette émission. Merci à nos camarades de la régie, Sacha et Timéo.
Nous souhaitons saluer Madame Béron, référente régionale mémoire d'Occitanie, et Monsieur Dupont, directeur départemental de l'Office national des combattants et victimes de guerre du Gers, présent dans notre studio. Ils ont été à l'initiative de ce projet et, sans eux, nous n'aurions jamais pu faire les déplacements à Pont-Saint-Père et à Toulouse.
Enfin, nous pensons à nos professeurs, Messieurs Duteil, Guitte et Néré, qui nous ont accompagnés tout au long de l'année. Nous pensons aussi à Madame Bailac et à Monsieur Cornillot qui n'ont pas dit non à ce projet.
Merci, à bientôt.